Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioalliance.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume. Je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Votre émission de « Votre santé, un trésor » aujourd'hui va être centrée sur la santé et les pathologies de Napoléon Bonaparte avant son départ pour l'île de Sainte-Hélène. L'idée d'une série d'émissions sur Napoléon et la médecine, et notamment sa santé, m'est apparue opportune après avoir vu le film d'Abel Gance, Napoléon, Napoléon vu par Abel Gance, qu'Abel Gance fit voir au public le 7 avril 1927. Je vous en avais parlé lors de notre première émission sur Napoléon Bonaparte et la médecine. Napoléon Bonaparte est devenu l'empereur des Français après le désastre de la Révolution dite de 1789. La convocation par Louis XVI des États généraux à Versailles le 5 mai 1789 marque le début de la Révolution française. La première République française qui la suit, officiellement nommée République française, est le nom conventionnel donné par les historiens à la période correspondant à l'ensemble des régimes républicains de la France de septembre 1792 à mai 1804. Le 21 septembre 1792, les députés de la Convention réunis pour la première fois décident à l'unanimité l'abolition de la monarchie constitutionnelle en France. La République n'a en fait jamais été officiellement proclamée. Le 22 septembre 1792, la décision est prise de dater les actes de l'an 1 de la République. Le 25 septembre 1792, la République est déclarée une et indivisible. La République française avant l'Empire passe par trois formes de gouvernement ou régimes politiques différents. La Convention nationale, entre le 21 septembre 1792 et le 16 octobre 1795, inclut la période dite de la Terreur, qui va de 1793 à 1794, le Directoire, fondé par la Constitution de l'an 3, qui s'étend, lui, entre le 26 octobre 1795 et le 9 novembre 1799, et le consulat entre le 10 novembre 1799 et le 18 mai 1804, est issu du coup d'État du 18 Brumaire et défini par la Constitution de l'an 8. Notant qu'il vous plaît que, pas plus que son instauration, l'abolition de la République n'a jamais été officiellement proclamée et que l'usage du nom République avait alors son sens latin, l'État ou d'organisation de l'État, qui tombera ensuite en désuétude pour disparaître complètement en 1808. Lorsque le thème « République » sera employé, il signifiera uniquement un système démocratique électif comme nous le vivons actuellement. Le consulat prend fin avec l'instauration du Premier Empire. L'empereur des Français, Napoléon Ier, est devenu un mythe, mais pour le médecin, il y a aussi la personne, l'homme Napoléon Bonaparte, et une personne a toujours des maladies et des pathologies. J'ai invité à nouveau aujourd'hui pour cette deuxième émission sur la santé et les pathologies de Napoléon Bonaparte, avant Sainte-Hélène, le docteur Xavier Riault, directeur de collection aux éditions L'Harmattan. Il supervise depuis 2006 la collection qu'il a créée, Médecine à travers les siècles. À l'époque de Napoléon Ier, un savoir médical unique en Europe se concentre sur le sol français et la vision de la santé est réformée. Mais cela n'empêche pas Napoléon Bonaparte d'être malade. Bonjour à vous, docteur Xavier Riault, et bienvenue avec nous dans Votre Santé, un trésor sur Radio Alliance Plus.
Bonjour à tous et merci de votre accueil.
Une question tout d'abord, pour introduire notre propos, quelle était la constitution physique et mentale de Napoléon Bonaparte ?
Alors Napoléon, Bonaparte, est décrit en 1796, au moment où il prend le commandement de l'armée d'Italie, comme maigre, avec un aspect maladif, et il tousse sans discontinuer. De retour en 1797, alors qu'il va partir en Égypte, il est toujours dépeint comme très maigre, avec un teint jaune, avec des globes oculaires enfoncés dans leurs orbites et des poussées de fièvre très fréquentes. Donc il est souffreteux, particulièrement à son retour d'Égypte, et est toujours maigre naturellement. Pour l'état mental, on en reparlera, je pense, un peu plus tard. C'est vraiment plus tard, avant la première abdication, que les épisodes dépressifs se manifestent. Mais à ce moment-là, on ne parle que de symptômes physiques et il n'est pas d'aspect robuste sur le plan médical.
Alors, c'est poussé de fièvre. Vous pensez qu'elle vienne d'où ? De paludisme
Oui, il y a eu des épisodes de paludisme en 1791. Il est malade une première fois et il rechute derrière. Il attrape la gale en 1793. Comme on l'a dit, il souffre d'une inflammation pulmonaire qui est auscultée par Corvisart avant de partir en Égypte. Il crache du sang en 1803 à Bruxelles. De 1804 à 1807, il se porte pas trop mal, mais on a des suspicions de crise d'épilepsie qui sont relatées par Constance, son domestique. Mais à l'époque, les symptômes et la pathologie épileptique ne sont pas connus, donc ce sont des suppositions avant toute chose. En 1808, les premières crises de douleur gastrique apparaissent. On ne sait pas trop d'où elles proviennent. 1809, il a des éruptions à la partie postérieure du cou.
On n'a
Il
pas
a quelques
étiqueté,
temps.
on n'a pas étiqueté
Oui,
ces,
pardon.
on n'a pas étiqueté ces éruptions au niveau du cou. C'est pas un...
Non, 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 non. Il n'y a pas eu de récidive. Corvisart est intervenu. Il a rassuré tout le monde. Il a appliqué un simple vésicatoire qui a guéri Napoléon. Il n'y a pas eu de récidive.
Et
Hein.
je reviens sur les crises d'épilepsie, là aussi. Est-ce qu'il avait des crises très importantes, grand mal
Alors,
épileptique ou...
je dis, ça reste, comment dire, dans la jeunesse, il semblerait qu'il ait eu des crises épileptiques, mais ça reste décrit par le domestique. Et on ne sait pas trop si c'est véritablement cela. Ça n'a pas été constaté par un médecin.
Oui.
Ça a été rapporté par Talleyrand en 1838, qui n'est pas médecin non plus. C'est plus un mettre au conditionnel qu'avec certitude, quoi.
Certitude, oui, d'accord,
Donc,
ok.
mais il y a des épisodes qui semblent évoquer une épilepsie probable en 1804. Voilà. Rien de plus sur le sujet.
D'accord.
Il a souffert de pas mal de choses, hein, de douleurs gastriques et hépatiques en 1813. La veille de la bataille de Waterloo, il souffre d'hémorroïdes et il n'urine plus. Il n'urine plus, ce qui a d'ailleurs donné une hypothèse sur sa mort, plus loin que peut-être on en parlera. Voilà, donc il est quand même très souffrant, il a quand même un train constant de maladies quand même régulier. Et avant Waterloo, il souffre, enfin sur le plan gastrique, il est vraiment quand même en souffrance régulière et permanente, quoi.
D'accord. Oui, parce qu'il montait beaucoup à cheval. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il était
Oui,
toujours à cheval.
oui, oui, oui.
Donc ça...
Le problème des hémorroïdes des cavaliers, c'est quelque chose,
Voilà.
semble-t-il, qui est quand même assez récurrent, quoi.
Et cette annuée qu'il a vue, donc...
Des
Oui,
grands cavaliers, parce
les...
que il faut avoir conscience que là, on parle de personnes qui passent des journées entières sur leur cheval, hein,
Ouais.
pas une heure ou deux, comme le loisir aujourd'hui.
Oui, c'est...
On parle de gens qui vivaient à cheval, hein, matin au soir et du soir au matin. Hein.
Oui. Et cette annuée qu'il a eue, elle s'est résolue d'elle-même. En fait, on ne l'a pas traitée. Il n'y a pas eu de problème de calcul ou autre chose.
Non, il n'y a pas eu de traitement particulier, non, 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 pas particulier, mais il s'est fait soigner pour les hémorroïdes et il semblerait qu'il n'a pas pu monter à cheval, ce qui l'a empêché également d'être sur le terrain pour analyser les mouvements des troupes. Et il
Oui.
y a une autre fois également, en 1813, où il est pris non, c'est en 1812, pardon, à la veille de la bataille de la Moscova, pardon. Il est atteint d'un gros rhume et d'une extinction de voix, ce qui va véritablement l'empêcher de donner ses ordres.
Oui.
Et bah, évidemment, on va nuire à des bonnes directions des combats
Et
cette
bien
fois-là.
sûr. Oui. Alors,
Bon,
racontez-nous.
des maladies, somme toute, assez classiques, enfin, classiques non, parce que ce n'est pas tout le monde qui souffre
Non.
d'épilepsie,
Oui.
et qu'on ignore la cause de ses problèmes gastriques, mais il est quand même régulièrement malade, quoi.
Oui, mais comme vous nous avez dit qu'il avait craché du sang aussi, il y a toujours des tubercules. Ce qu'on n'imagine pas, mais en fait, en tant que médecin, moi je le vois, notamment en ayant étudié Mozart et l'évolution de pathologie de Mozart, en fait, les gens de l'époque avaient de multiples pathologies chroniques, notamment des infections infantiles, qui fait qu'on n'a pas du tout les mêmes tableaux qu'actuellement, où on a une, deux
Non.
pathologies qui sont
Non.
qu'on voit, mais là, il y avait un genre de cortège de
Et puis
cocktail de pathologies.
surtout, c'est qu'il y a, y a, y a une description des symptômes qui est complètement différente de celle que nous pouvons connaître aujourd'hui parce que les mots MAUX, tels que nous l'entendons aujourd'hui, ne sont pas décrits ou pensés de la même
Voilà, oui.
manière à l'époque.
Oui,
Ou sont ignorés aussi parce
les
que
tableaux cliniques
sont
et la
ignorés aussi
nosologie étaient différentes.
parce qu'il y a des pathologies qu'on a découvertes bien après, tout simplement.
Alors, parlez-nous de la rencontre de Napoléon Bonaparte avec Corvisart, connu comme pour avoir été son médecin personnel. Ainsi,
Ah bah
quelques sont suivis.
c'est une forme de coup de foudre hein, véritable. C'est comment dire, en 1797 qu'ils vont se rencontrer par l'entremise de Joséphine de Beauharnais. Et Napoléon va être véritablement séduit par l'homme, par la sûreté de son diagnostic. Il va s'attacher ses services et en faire son premier médecin. C'est aussi Corvisart qui va à ce qu'on appelle la maison de l'empereur. La maison de l'empereur, c'est l'ensemble du personnel qui va intervenir dans la vie de l'empereur, que ce soit les valets, etc., mais aussi les médecins, tous les praticiens médicaux qui vont intervenir dans la vie de l'empereur. C'est Corvisart qui va gérer cette maison de l'empereur médicale, si je puis dire,
C'est le
et qui
patron.
va nommer les personnes en poste pour assister l'empereur dans son quotidien. C'est Corvisart qui va le suivre partout, hein, le plus possible sur le plan médical, et qui va le gérer. Napoléon dira de lui, je ne crois pas en la médecine, je crois en Corvisart.
Oui.
C'est Napoléon qui va lui suggérer d'écrire son livre d'auscultation, un livre d'auscultation qui, comment dire, pour l'époque est véritablement révolutionnaire. Et ils ne vont pas se quitter. Corvisart va demander à accompagner Napoléon à Sainte-Hélène, mais jugeant l'homme trop vieux, Napoléon va refuser. Il se fera accompagner par d'autres médecins, et c'est véritablement un médecin considérable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une autre émission, il a formé la Hennec. Ils ont une autre perception de l'auscultation du cœur, la Hennec qui sera l'inventeur du stéthoscope
Ouais.
en 1807.
Alors, vous pouvez nous parler aussi de notre personnage, Alexandre Vivant, pardon, qui fait ses études
Yvan,
médicales
ben.
à
Yvan,
l'hôpital.
c'est un chirurgien militaire à la base.
Voilà, qui fait ses études à l'hôpital militaire de Toulon et prend part à la première
Oui.
campagne d'Italie comme chirurgien en sein de l'armée
C'est ça.
d'Italie et devient chirurgien aux Invalides en 1800 et cette même année entre au service personnel de Napoléon Bonaparte,
Voilà,
succédant à
exactement. Il va
Raphaël.
de. Il va...
Bienvenue Sabatier, si mes sources sont bonnes.
C'est ça, tout à fait. Et c'est un chirurgien qui était omniprésent dans la vie de l'empereur, au point d'assister à la toilette de l'empereur. Il va dormir aux Tuileries, il va assister au réveil de l'empereur, il sera présent à tout moment, y compris sur le plan militaire, parce qu'il va l'accompagner dans ses déplacements. Il va susciter de nombreuses jalousies, donc sera évidemment très décrié. Il va être fait officier de la Légion d'honneur en 1807. Et il sera présent sur la seconde blessure de guerre de Napoléon à Ratisbonne en 1809. Et c'est un chirurgien qui va, comment dire, être élevé au rang de baron d'Empire le 15 août 1809 par décret de l'empereur. Et il va assister à l'état général de Napoléon à la veille de la bataille de Moscova n'est pas bon. Et c'est Ivan qui va l'ausculter et qui va rassurer tout le monde en dédramatisant les choses. Et puis surtout, c'est encore Ivan qui sera présent à la fin en 1814 à Fontainebleau lorsque Napoléon lui demandera de l'aider à se suicider.
Voilà.
Voilà, mais les choses ne vont pas se passer comme Napoléon
Le
le
souhaitait, oui.
voulait.
Alors, revenons à cette année de 1814, car un épisode dépressif se traduit par une tentative de suicide.
Tout à fait.
Voilà,
Oui.
pouvez-vous nous en parler
Et donc,
du rôle d'...
pendant la campagne de Russie, l'empereur a déjà sollicité Ivan pour lui demander de l'aider à se suicider. Au retour hein, de la campagne de Russie, parce que jusqu'à Moscou, c'est plutôt une marche en avant victorieuse, même si c'est mitigé, ça reste victorieux. Et c'est au retour de la campagne de Russie, donc il sollicite Ivan pour lui demander de mettre fin à ses jours, mais enfin, il l'aurait sollicité, mais Ivan refuse une première fois. À Fontainebleau, dans la nuit du 12 au 13 avril, Napoléon redemande à Ivan de lui donner quelque chose pour mettre fin à ses jours. Donc, Ivan va lui donner un placebo, un liquide à base de belladone et d'hellebore blanc qui est totalement inoffensif. Napoléon va l'ingérer et il va se rendre compte que le breuvage ne lui fait aucun effet. Et là, il y a deux hypothèses qui sont formulées. Il va demander au chirurgien de lui administrer quelque chose de plus efficace. Ce dernier va refuser. Face à l'insistance de son patient, Ivan va prendre panique et se serait enfui. L'autre version affirme que le premier breuvage aurait été actif, mais qu'Ivan serait parvenu à faire vomir son patient pour le purger. Mais devant l'état pris de panique à l'idée d'être considéré comme le responsable de la mort ou de la dégradation de l'état physique de l'empereur, il aurait pris la fuite. Ce que Napoléon, face à cette fuite, ne lui a jamais pardonné. Et que lorsque Ivan va le solliciter pour revenir à son service pendant les 100 jours, eh bien, l'empereur, qui est très rancunier, va l'ignorer totalement et ne fera plus jamais appel à ses services.
Très bien. Mais je vous remercie. Je vous propose une trêve musicale avec Veillons au salut de l'Empire. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Xavier Hériot qui nous parle de la santé et des pathologies de Napoléon Bonaparte avant Sainte-Hélène. Quelles ont été les blessures subies par Bonaparte?
Alors, si on parle blessures militaires strictes, il en a eu trois véritables. Le 16 décembre 1793, au siège de Toulon, Bonaparte décide de mener l'assaut, son cheval est tué et Bonaparte décide de continuer à pied. Il est blessé grièvement à la cuisse par un coup d'esponton donné par un Anglais. Et
Dites-nous ce que
il
c'est
a
qu'un
très très peur
esponton.
de perdre sa cuisse et que sa cuisse soit amputée. Mais finalement, elle va être guérie. Bon, il y a des doutes sur le chirurgien qui lui a sauvé sa cuisse. Soit ce serait le chirurgien Hernandez qui voulait l'amputer. Et Mathieu Chargé qui l'aurait sauvé, ou soit ce serait Hernandez, chirurgien de marine, qui l'aurait sauvé. Bon,
Un esponton,
c'est de la
c'est...
polémique pas importante.
Un
Mais ça,
esponton,
c'est la
c'est...
première blessure. La deuxième blessure, en 6 juillet 1809, à Wagram ou à Essling, on ne sait pas trop, il aurait reçu une balle qui lui aurait déchiré la botte, le bas et la peau de la jambe gauche, mais sans gravité. Et puis la dernière, c'est celle du 23 avril 1809 au siège de Ratisbonne, qui s'était représentée par une peinture où on voit Ivan à ses pieds. C'est relaté par Constant, son domestique, qui dit cette chose: le coup avait frappé si fort que l'empereur était assis, il venait de recevoir la balle qu'il avait frappée au talon. Un aide-de-camp va me chercher. Lorsque j'arrivais, je trouvais Monsieur Ivan occupé à couper la botte de Sa Majesté, dont je l'aidais à panser la blessure. Quoique la douleur fût encore très vive, l'empereur ne voulut même pas donner le temps qu'on lui remît sa botte, et pour donner le change à l'ennemi et rassurer l'armée sur son état, il monta à cheval, partit au galop avec tout son état-major. Toutefois, la polémique vient du fait que ce serait peut-être pas Ivan qui aurait donné les premiers soins, mais plutôt un autre chirurgien, Charles Regnault, qui serait celui qui pansait la jambe de l'empereur. Bon, c'est un chirurgien qui a une belle carrière militaire, qui recevra la Légion d'honneur et qui aura une pension de retraite, qui est mort en 1832. Il va recevoir 4 bourses impériales pour le pansement à Ratisbonne, qui vont être destinées à ses 4 fils. Hein, et une montre à incendie. Voilà, ça c'est les blessures de guerre véritables de l'empereur, les
Alors,
trois.
vous avez parlé des spondons. Et qu'est-ce que c'est? Qui était
Un
qui a...
Biscayen qui est exposé au musée de l'armée à Paris.
Ah, très bien.
C'est ce que Las Cases rapporte dans son mémorial. C'est l'empereur qui lui a dit que. Attendez, non, je dis des bêtises. Esponton, c'est une arme blanche,
Voilà,
pardon,
c'est une arme
excusez-moi, j'ai
blanche.
confondu avec la blessure de Ratisbonne, excusez-moi.
Voilà.
Autant pour moi. Donc, ce serait une blessure à l'arme blanche, hein,
Alarme blanche, ouais.
à l'arme blanche, oui, qui ont failli le blesser et lui faire perdre sa jambe, tout simplement. C'est pas une balle, c'est une arme blanche.
Là. Alors, il y a eu des blessures de guerre, mais aussi il y a eu des blessures animalières. Quelles ont été ces blessures animalières?
Blessure à l'humanière, bien sûr, les chutes de chevaux, ça y en a pléthore. Hein, il chute à de nombreuses reprises dans ses pérégrinations cavalières. Il chute à Toulon, dans la campagne d'Italie, à Saint-Jean-d'Acre, à Boulogne, à Arcis-sur-Aube. Il se fait mordre la nuit de sa première nuit avec Joséphine de Beauharnais en décembre 1795 ou décembre 1796 par un chien du voisinage. En 1803, une chasse au sanglier, il se blesse au cours de la chasse. Voilà à peu près il a aussi un accident de calèche dans la jeunesse où il perd connaissance. Donc il y a eu un certain nombre de blessures animalières, effectivement. Il y a bon, à deux autres petites blessures à signaler, mais qui ne sont pas animalières. À Marlevaux, il manque de se noyer dans la vase, peut-être consécutif à une chute de cheval. Et en 1812, à Moscou, ses cheveux sont brûlés pendant l'incendie de Moscou.
Et les
Voilà,
chutes,
on a fait à
les
peu près
chutes,
le tour.
les chutes de cheval, enfin, qui peuvent être très graves, n'ont pas eu de conséquences directes sur la santé de l'empereur, quoi.
Non, il semble pas, puisqu'il a remonté. Il a eu plusieurs si, il a eu des nécessités de prendre des jours de repos, parce qu'il a certainement eu des traumatismes. Mais bon, c'est pas vraiment détaillé sur les conséquences des traumatismes en question, quoi. On n'en sait pas plus.
D'accord. Bon, donc il a eu ses blessures. En 1809, au siège de Ratisbonne, Napoléon est blessé. C'est sa seconde blessure de guerre, hein, vous l'avez parlé. Constant, valet de
Oui, c'est
chambre de
ça,
l'empereur, à
oui.
la fois son secrétaire et son confident, son compagnon de chaque instant, nous en relate l'épisode. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ce qu'a dit Constant?
Je ne l'ai pas lu tout à l'heure, parce
Si, vous
qu'il
l'avez
avait.
eu.
Si,
Mais est-ce que.
il a décrit hein, la blessure de guerre dans ses mémoires. Et donc, il a décrit qu'il était arrivé la deuxième fois au moment où Ivan faisait le pansement, ce qui semble vraisemblable.
Oui.
Mais il y a de gros doutes sur le fait que qu'Ivan, en fait, ne soit intervenu qu'en deuxième intention. Tout de suite après la blessure, c'est Charles Regnault qui aurait pu faire le premier pansement et Ivan qui aurait repris le travail derrière.
Voilà.
Voilà, et en cela, on a témoigné de ça dans ses mémoires.
Oui. Alors quand même, on peut remarquer que c'est quand même un homme qui était souvent à cheval, parce que dans l'iconographie, on le voit à cheval, mais qui chevauchait pendant des heures, hein, comme on l'a
Oui,
déjà
oui, oui.
vu, qui était au milieu de la bataille quand même, parce que même s'il y a des boulets de canon qui pouvaient fuser de partout, etc. Mais qui n'a pas eu de très gros traumatisme de guerre, alors qu'il toute sa vie, il a fait la guerre. Quoi, hein. Donc, à Toulon, bon, il a eu une blessure très importante, mais quand même, il a fait toute sa carrière militaire sans une blessure très, très, très importante.
Non, non. La blessure de Ratisbonne en 1809, le rapport d'expertise d'autopsie d'Antomarquis et de même les témoignages sur la gravité de la blessure sont quand même très, très unanimes. Hein. C'est que c'était une simple contusion sous-malléolaire externe droite. Donc, c'était pas, n'y a pas eu de fracture, il n'y a pas eu de blessure par balle au sens. C'est une contusion, quoi. Ça reste bénin. Ça reste
D'accord.
bénin.
Et alors, simplement pour revenir à l'épisode de 1814, là, ces tentatives de suicide, ou pas de suicide, d'euthanasie, quoi, hein, puisqu'il demande d'aider, donc il demande qu'on l'euthanasie. Est-ce que dans sa vie, il y a eu aussi des descriptions par des témoins, des médecins, d'états dépressifs ou de mal-être comme ça?
Il y en aura à Sainte-Hélène, un peu plus.
Oui,
ça va
oui,
être
non,
mentionné.
Mais avant
Dépressif,
Sainte-Hélène.
Pas avant, non.
Pas
Avant,
avant,
non.
Hein. Eh bien, docteur Xavier Raoux, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous votre santé et notre émission Votre Santé, un trésor, votre passion pour les pathologies de Napoléon. Merci infiniment à vous. J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui. J'ai demandé au docteur Xavier Rio, de nous citer un livre sur cette période. Il m'a signalé celui qu'il a écrit. La santé de Napoléon Ier, collection Médecins à travers les siècles, L'Harmattan, Paris 2023. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Encore merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.